Radio Grand-Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, nous évoquerons les différentes activités des Amis du Perche, acteurs du territoire. Et pour ce faire, mes invités seront Alain Morin, président de la Fédération des Amis du Perche, Michel Crec, président des Amis du Perche d'Eure-et-Loire, Jean de Tapie, président des Amis du Perche de la Sarthe et du Loir-et-Cher, et Jean-François Suzanne, président des Amis du Perche de l'Orne. Nous accueillerons également l'auteur d'un ouvrage qui va paraître bientôt, Philippe Boudet. Alors, monsieur le président de la Fédération des Amis du Perche, Alain Morin, je suis très contente de vous recevoir. Bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, j'aimerais bien que vous évoquiez pour nous l'histoire de cette fédération, et je suis ravie parce que cette fédération est née à Nogent-le-Rotrou.
Cette fédération est de fait née à Nogent-le-Rotrou en avril 1947, très exactement. Elle avait pour nom à l'époque les Amis du Vieux Nogent.
C'est ça.
Et puis, sous l'impulsion de Édouard Le Boucher et du chanoine Jean Aubry.
Oui, c'était Monsieur Massiot qui était.
C'était Monsieur Massiot qui
voilà.
A fondé.
Citons-le parce que
oui.
Et ce fut un grand homme pour Nogent-le-Rotrou.
Absolument, c'était Georges Massiot qui a créé cette association et il a été sollicité par Édouard Le Boucher et le chanoine Jean Aubry.
Oui.
Qui, à ce moment-là, ont souhaité que l'action des Amis du Vieux-Nogent s'étende à l'ensemble du territoire du Perche. Et les Amis du Vieux-Nogent sont devenus rapidement les Amis du Perche. Et le siège social, qui était alors à l'origine à Nogent-le-Rotrou, est devenu à Mortagne-au-Perche.
Oui.
Ensuite, le siège social est passé à Seton. Puis maintenant, nous sommes installés à Rémalard.
Bon. C'est une association qui comporte de nombreux membres.
Les Amis du Perche comportent près de 1000 membres à jour de cotisation, comme on dit si bien,
oui.
À chaque Assemblée Générale.
Eh bien écoutez, j'espère que cette émission va encore faire naître d'autres personnes qui auront envie de vous rejoindre.
Je souhaite que cela sollicite la participation de nouveaux adhérents.
Alors votre association essaie de promouvoir le patrimoine architectural et naturel de la province du Perche. Comment cela ?
Voilà. L'objectif premier de Georges Massiot était bien sûr la protection et la sauvegarde du patrimoine bâti, car c'était tout à fait novateur à la sortie de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, de se lancer dans une telle opération. Mais Nogent était menacé par de nombreuses destructions de son patrimoine architectural, et Georges Massiot a souhaité pouvoir le sauvegarder. Et c'est ainsi que, par son action, il a fait classer le monument historique, le château Saint-Jean,
voilà,
de Nogent-le-Rotrou, et qui a été par la suite acheté par la ville de Nogent.
Oui, parce que s'il n'avait pas été là, c'était la destruction.
Ah ben, quand il a actionné l'association, le château Saint-Jean servait de carrière quasiment aux habitants de la commune.
Oui, c'est ça. Donc il n'y avait à l'origine qu'une association qui était l'Eure-et-Loire, en quelque sorte.
C'était quasi l'Eure-et-Loire. Alors par la suite, quand le siège social est passé à Mortagne-au-Perche, l'Orne s'est beaucoup développée.
Ça, c'est en quelle année ?
Difficile de répondre sur l'année précisément.
Oui, vers à peu près 1948, au moment où, comme l'a dit Alain Morin, Édouard Le Boucher et le chanoine Jean Aubry ont rejoint Georges Massiot.
Voilà. Donc, 1948, c'est quand même vite très, que Mortagne a rejoint...
Très rapide, c'était très rapide. Bah, c'est-à-dire que les Amis du Vieux-Nogent n'étaient pas très bien vus sur le territoire par une action d'un président qui était assez ferme et, très
dynamique.
Et à ce moment-là, il a souhaité aller s'installer plutôt à Mortagne-au-Perche, où on l'a ouvert grand les bras.
Donc, Mortagne-au-Perche, avec l'actuel président de l'Orne, qui est Jean-François Suzanne. Bonjour Jean-François Suzanne.
Bonjour Christiane Blanc.
Donc, vous êtes maintenant président des Amis du Perche de l'Orne, et le siège donc est à Mortagne, et vous avez aussi de nombreux membres.
Tout à fait, nous sommes actuellement à peu près à 430 adhérents à jour de cotisation. Nous, de facto, nous sommes membres aussi de la Fédération des Amis du Perche.
Très bien. Alors, j'en reviens au président. Votre but en tant que président, c'était d'agrandir, d'élargir. Donc, vous avez cité l'Eure-et-Loir, l'Orne. Je sais qu'il y a aussi d'autres départements qui vous ont rejoint.
Oui, le Loir-et-Cher et la Sarthe qui forment la troisième association départementale. Car il faut savoir que les Amis du Perche, en 1990, se sont organisés en fédération avec la création de trois associations départementales. Donc ce qui a permis d'asseoir son action plus dans les territoires que sont l'Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher et la Sarthe, avec bien sûr un développement du nombre d'adhérents.
Voilà. Alors, il y a maintenant un président pour l'Eure-et-Loir, qui est Michel Crec.
Bonjour, Christiane Blin.
Bonjour, Michel Crec. Donc, vous êtes président de l'Eure-et-Loir. Et vous, combien de personnes, combien de membres avez-vous?
Alors, nous, on fait la course, non pas en tête, comme Jean-François Suzanne vient de vous le dire, mais on est à environ 350 adhérents.
Oui.
Et qui sont des adhérents fidèles. Beaucoup, évidemment, autour de nos gens le retrouvent. On retrouve un peu cette structure des premiers adhérents qui avaient participé à l'action d'abord des Amis du Perche, créée en 1947, et qui après, lorsque Alain Morin vient de le dire, lorsque les associations locales et départementales se sont créées, ont continué à adhérer, bien sûr, voilà, à l'essentiel de nos actions et de nos idées.
Donc, l'Eure-et-Loir va vous rejoindre, j'espère, également. Alors, Jean de Tapie, vous ne nous avez pas dit combien vous-même vous aviez de membres. Bonjour, Jean de Tapie.
Bonjour, Christiane Blin. L'association du Loir-et-Cher et des Amis du Perche du Loir-et-Cher et de la Sarthe a environ 130 membres. Nous sommes le parent de la fédération,
mais parce que
le territoire du Perche dans la Sarthe est relativement restreint, il est plus élargi dans le Loir-et-Cher à travers le Perche-Gouët, mais en superficie globale, la surface percheronne est certainement la plus petite par rapport aux deux autres associations départementales. C'est ce qui est, ceci explique notre faible nombre d'adhérents, mais nous n'en restons pas là et nous entendons développer, notamment par une action difficile auprès des jeunes, parce que recruter les jeunes, c'est vraiment beaucoup d'investissement dans la mesure où ils sont pris par des occupations professionnelles, familiales, et ce qui rend l'opération un peu compliquée.
Alors j'en reviens au président Morin. Vous avez expliqué vos différents buts. Je sais également que vous avez un conseil scientifique, un comité scientifique et aussi un conseil d'édition. Est-ce bien cela?
Oui, c'est-à-dire que on arrive à se structurer.
Oui.
On arrive à se structurer avec des comités. Le premier comité que nous avons créé, c'est un comité scientifique que préside notre ami Jean-François Suzanne. Et nous venons de créer tout récemment un comité d'édition pour pouvoir publier de nombreux ouvrages en les structurant sur l'année civile, pour pouvoir faire face aux besoins financiers de telles publications.
Alors, il y a, vous évoquez des livres, mais il y a d'autres parutions.
Bien sûr. Cela. Depuis 1957, les cahiers percherons, qui sont l'épine dorsale, si on peut dire, des Amis du Perche. Et nous en sommes aujourd'hui au 207e numéro publié. C'est une revue trimestrielle et qui relate...
Monsieur Massiot avait commencé à publier ses livrets.
Voilà, en 1957, avec sous la plume de Philippe Siguret,
voilà,
qui était alors archiviste, paléographe à Alençon.
Et qui est votre président d'honneur.
Et qui est aujourd'hui notre président d'honneur, puisqu'il a présidé aux destinées des Amis du Perche pendant 30 ans, de 1962 à 1972, Georges Massiot ayant présidé de 1947 à 1962.
On peut ajouter peut-être que dans ces publications, il y avait des dessins à la main de M. Massiot.
Voilà, il y avait des dessins et des aquarelles de Georges Massiot. Ils étaient illustrés par les aquarelles et les dessins de Georges Massiot.
J'imagine qu'ils doivent être difficiles à trouver maintenant.
Ils sont assez difficiles à trouver et à vrai dire, je ne sais pas trop où ils se trouvent, peut-être dans la famille. Figurez, on a quelques-uns, je pense, mais je ne peux pas vous assurer de l'endroit où on peut les trouver.
Oui, alors peut-être que vous, président de l'Orne, vous avez des idées.
Alors, il y a quand même quelques aquarelles qui ont été reproduites il y a à peu près une dizaine d'années, se trouvent toujours au sein de la Fédération des Amis du Perche. Certaines sont en couleur et d'autres sont en noir et blanc, à peu près une dizaine.
Alors, vous-même, peut-être vous pouvez nous évoquer aussi d'autres publications. Je pense à la nouvelle publication qui vient d'être publiée.
La publication qui fait référence maintenant, c'est aussi Pays du Perche, qui est une revue qui paraît deux fois par an, avec un numéro hors série annuel. Et cette revue semestrielle a pour but de parler de l'histoire du Perche, si je puis dire, qui se fait aujourd'hui. Ce sera un outil extraordinaire pour les futurs historiens qui pourront se plonger dans cette revue Pays du Perche. Nous avons un nombre de cotisants importants, d'abonnés qui deviennent de plus en plus nombreux, et nous avons une publication qui mène bien son chemin sans problème.
Oui, alors je citerai quand même le numéro spécial des manoirs. Je crois que celui-là s'est vendu encore mieux que les autres.
Alors, celui sur les manoirs a été un vrai succès de librairie.
Best-seller, on va dire.
Un best-seller, ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on publie un ouvrage sur les manoirs du Perche, est assuré du succès. C'est clair que les manoirs du Perche attirent l'attention des lecteurs, peut-être plus des touristes, bien évidemment, qui sont à la recherche de l'histoire du Perche. Cette histoire du Perche étant un des objectifs portés par les Amis du Perche, de faire connaître à l'ensemble du grand public l'histoire de notre ancienne province.
Alors il y a aussi les jardins qui ont eu beaucoup de succès. C'est Nadia de Kermel qui avait été rédactrice, je crois.
Tout à
bien.
Fait, Nadia de Kermel qui a été rédigé les Jardins du Perche, qui a connu un beau succès de librairie et également. Les numéros hors série connaissent de beaux succès de librairie en général, et les numéros normaux, si je puis dire, ordinaires, tournent autour de 2000 adhérents.
Très bien. Alors, je sais également que vous vous occupez du comité scientifique. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Eh bien, je vais surtout passer la parole à Jean-François Suzanne, qui est président du comité scientifique, à la suite de René Andrieux, et qui a déjà organisé deux colloques, si ma mémoire est bonne.
Oui, alors maintenant, Jean-François Suzanne, eh bien, nous avions reçu très souvent le colonel Andrieux, qui évoquait bien sûr ce comité scientifique. Alors ce serait bien d'en dire quelques mots pour nos auditeurs.
C'est un comité qui a été créé en 2002 par la Fédération des Amis du Perche, qui s'est mis à la tâche dès 2004, et son premier colloque a eu lieu en 2006. Même ses deux premiers colloques, en fait, ça a été pendant deux jours sur deux thèmes différents. Une première journée, c'était à nos gens de retrouve, puis la deuxième journée à Mortagne-au-Perche sur deux thèmes différents. L'un, c'était le pouvoir dans le Perche au temps des retrouves, c'est-à-dire le Moyen-Âge, et l'autre, c'était sur la Seconde Guerre mondiale.
Et vous avez des idées pour le prochain colloque scientifique?
Alors, le prochain colloque, il est en continuation, on va dire comme ça, vis-à-vis du celui que j'ai présidé en 2014 sur le Perche de 1914 à 1918. Et le prochain, on continue.
Avec un ouvrage très intéressant.
Merci.
D'ailleurs, vous étiez venu en parler et je dois dire que je pense que ce livre a eu beaucoup de succès.
Oui,
il était
continue
très bien
de
fait.
Se vendre.
On peut toujours le trouver.
En librairie, maison de la presse ou le site internet des Amis du Perche. C'est un ouvrage qui est de référence dans la communauté scientifique, puisqu'en
bien
fait,
sûr,
il éclaire localement ce qu'ont vécu les percherons, les Français, durant cette terrible bataille. Pas seulement sur le front, mais à l'arrière, dans le Perche.
Ah oui, moi je me souviens des personnes qui s'occupaient des ambulances, vous aviez évoqué cela, et c'était très intéressant, et je dirais même poignant par moments.
Tout à fait. Et donc la suite, alors 2018, oui. Nous souhaitons aller donc en 1918, c'est-à-dire au lendemain de la victoire de la Grande Guerre dans le Perche, et durant l'entre-deux-guerres, voir quelles ont été les conséquences de ce conflit.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec les amis du Perche et tout particulièrement Jean-François Suzanne qui évoquait le comité scientifique des amis du Perche. Alors Jean-François Suzanne, je crois qu'il y a d'autres publications dont vous vouliez parler.
Oui, donc que nous avons donc édité l'année dernière le Perche de 1914 à 1918, donc les actes du colloque, de ce cinquième colloque labellisé par la mission du centenaire. Et au mois de juin dernier, nous avons édité un autre livre également scientifique commémorant la Seconde Guerre mondiale de 1944, La libération du Perche, qui lui a été labellisé par la mission du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale.
Alors je crois aussi, Président Morin, qu'il y avait d'autres ouvrages dont vous vouliez parler.
Eh bien, oui, la Fédération des Amis du Perche publie de nombreux ouvrages dans des collections diverses et variées. Nous avons la collection des trésors, nous avons la collection Présence du Perche, nous avons la collection des mémoires. Et donc, vraiment, nous avons beaucoup de collections qui s'enrichissent chaque année de quelques ouvrages que nous publions bien volontiers. Et le comité d'édition aura d'ailleurs pour objectif de planifier toutes ces choses.
Et tous ces livres, on peut les trouver en librairie ou peut-être aussi chez vous, à savoir ?
Tous ces livres peuvent être trouvés en librairie, en maison de la presse, dans des points de vente divers et variés et bien sûr au siège social de la Fédération à Rémalard.
Vous voulez bien rappeler peut-être les coordonnées du siège social, le téléphone et le mail ?
Alors, c'est 7 place du Champ de Foire à Rémalard. Le téléphone, c'est le 02 33.
Pas si vite ! 02 33
73 81 86 02 33 73 81 86. Il faut savoir qu'il y a une permanence qui se tient tous les vendredis matin de 10h à 12h.
Et le mail ?
Et le mail www.amiduperche.fr.
Parfait. Alors maintenant, j'aimerais bien que les amis du Perche de l'Eure-et-Loire évoquent ce qu'ils ont fait cette année. Quelles ont été vos activités, vos promenades ? Racontez-nous, Michel Crec.
Eh bien, les amis du Perche de l'Eure-et-Loire sont chargés des animations locales et des rencontres que nous pouvons faire avec des personnes qui sont des personnes ressources et que nous connaissons et qui sont illustres dans la région.
Alors sais qu'il y a eu une visite très intéressante, très importante à Nogent-le-Rotrou.
Ah oui, tout à fait, c'était en octobre et nous sommes allés à la rencontre de Michel Trouillard qui, en évoquant l'agriculture et la maréchalerie plus précisément, et qui est une collection très importante d'outils anciens, de tracteurs, et au fond, c'était un moyen de voir quelles étaient les ressources locales et de les présenter aux amis du Perche. Nous étions environ 60, c'est toujours très prisé. Et nous avons terminé par un breuvage traditionnel qui est la rôtie percheronne, le cidre chaud avec le pain grillé, qui était très apprécié.
Je crois que, justement, Michel Trouillard était maréchal ferrant itinérant. Alors, ce serait bien pour nos auditeurs que vous expliquiez exactement en quoi consistait ce métier, puisque nos jeunes amis ne savent même pas en quoi ça consiste.
Bien, en fait, lui-même n'a jamais exercé. Il a 60 ans passés maintenant. Et ce sont ses ancêtres depuis plusieurs générations qui étaient maréchaux ferrants à demeure. Il y a une très belle forge d'ailleurs qu'il a conservée. Et puis, progressivement, allant sur les lieux où il fallait soigner les chevaux et les ferrer. Et sur la dernière génération, il y avait effectivement des déplacements. Mais auparavant, c'était les agriculteurs ou les propriétaires de chevaux percherons qui venaient à la maréchalerie pour faire ferrer leurs chevaux. C'est comme cela que ça se passait.
Oui, parce qu'il a justement quelque chose d'assez intéressant, c'est justement le paquetage qu'il emportait avec lui. Et ça, c'est très rare de voir une enclume de promenade, si je puis dire, pour pouvoir aller dans différentes fermes.
Tout à fait. Moi-même, mes ancêtres étaient maréchaux-ferrants, donc j'ai encore dans l'odorat ce que l'on pouvait ressentir quand on ferrait un cheval, et c'est toujours les idées qui ressortent, la mémoire qui revient. Oui. Mais je pense qu'il a aussi, lui, quelque chose d'assez extraordinaire qu'il présente, c'est ce qu'on appelle le travail, qui permettait de maintenir un cheval pour le ferrer dans une espèce de carcan qui est solide au sol et qui l'a conservé. C'est devenu assez rare. Et voilà ce que nous avons découvert lors de cette journée.
Oui, c'était une journée très intéressante. Alors, pour l'année 2017, à quoi avez-vous pensé?
Alors, si en 2016, on a eu aussi, et ça c'est traditionnel, les journées découvertes, nous sommes allés dans le Perche vendômois, autour de Vendôme, château de Rochambeau, etc. Nous avons, pour 2017, envisagé aussi des journées découvertes sur des thèmes... que je n'évoquerai que sous forme assez évasive, vous verrez pourquoi, le bâti, le patrimoine naturel ou les ressources locales, car nous gardons toujours un petit peu de secret dans le thème que nous allons aborder, qui nous permettra de faire des visites au mois de juillet. Tout cela se prépare, et notre conseil d'administration a commencé à travailler sur le sujet. Une journée découverte, toujours le premier dimanche du mois de juillet.
Et vous visiterez des manoirs?
Allez, cette année, nous...
faites envie à nos auditeurs.
Nous visiterons sans doute du bâti qui a un lien avec l'eau. À vous de découvrir.
Alors, on imagine qu'il y aura des moulins.
Par exemple.
Eh bien, effectivement, nous connaissons une association qui a créé cette promenade des moulins. Donc, je me réjouis de pouvoir vous suivre dans cette visite des moulins dans le Perche.
Oui, alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça, c'est un peu notre politique aussi, c'est de travailler avec des associations partenaires,
Oui.
Parce que nous pensons que l'union fait la force, évidemment, et qu'on peut croiser des compétences, et qu'ainsi on a cette possibilité de faire connaître les richesses locales par d'autres personnes que ceux que nous avons au sein de nos associations, qui sont certainement très bien, nos associations départementales, mais des gens qui ont des compétences ciblées, comme justement ceux qui connaissent bien les moulins. Donc voilà, c'est un exemple. Nous avons des partenariats aussi avec l'Université du Mans, et nous terminons actuellement avec un étudiant la préparation de sa thèse sur un homme illustre localement qui avait créé un maquis qui s'appelait le baron Antoine de Lair, et nous avons travaillé, nous aidons financièrement surtout donc cet étudiant pour qu'il produise un document qui pourra, je l'espère, on verra avec le comité d'édition dont on parlait tout à l'heure, éditer donc ce document.
Oui, Antoine de Lair est très connu dans toutes les mémoires nogentaises et puis percheronnes, bien sûr, parce qu'il a beaucoup œuvré.
Je voudrais terminer, mais évidemment, simplement pour le compte de la fédération, puisque nous sommes totalement liés, nous recherchons par exemple des financements pour les éditions. Et c'est ce que nous avons fait, je pense que dans l'Orne, nous en parlions tout à l'heure, c'était la même chose, nous l'avons fait pour le livre qui va sortir sur les abbayes et prieurés de Philippe Boudet.
Oui,
voilà ce que nous allons faire, et vous en parlerez, je crois, ultérieurement. Mais voilà ce que nous faisons en tant qu'association locale.
Alors, Monsieur le Président des Amis du Perche de la Sarthe, pouvez-vous évoquer ce que vous avez fait l'année précédente?
Je vous parlerai des deux années précédentes, parce que l'année 2016 a été un peu pauvre en activité. En 2015, nous avons fait, comme toutes les associations, une sortie à la découverte du patrimoine. Cette sortie était dans l'Orne, parce que c'est dans l'Orne où se trouvent toutes les pépites
des manoirs.
Et notamment, nous avons démarré à Préaux-du-Perche, puis nous avons continué vers Dancé, vers le Grand Saint-Quentin, Et pour terminer, à côté de la forêt de Belém, à Chêne-Gallon, qui peut-être va être évoqué tout à l'heure à l'occasion de l'ouvrage de Philippe Boudet.
Alors, je sais aussi que cette année, ça a été très brillant avec cette visite de la verrerie. Pouvez-vous évoquer cette maison qui a beaucoup de charme, très belle, et surtout qui a été restaurée d'une façon absolument magnifique?
Tous les deux ans, les associations départementales prennent en charge l'organisation de l'Assemblée générale de la Fédération. Et préalablement à cette assemblée, les associations départementales assurent leurs propres réunions. Nous nous sommes retrouvés à la verrerie du Plessis du Rhin, qui est une verrerie qui a été en activité jusque dans les années 55 et qui fabriquait à l'époque du flaconnage à l'attention des établissements Coty. Puis l'activité a cessé, la verrerie a été vendue et c'est le groupe du Crédit Agricole qui l'a récupéré avec une partie de la forêt de Montmirail. Récemment, ils se sont défaits de des bâtiments qui servaient de relais de chasse et c'est un particulier qui a racheté ce site et qui l'a remis en état. Alors, il y avait différents bâtiments, les bâtiments d'habitation du maître Verrier, qui est un bâtiment qui a plusieurs époques, parce qu'au fur et à mesure des passages du maître Verrier, il y a eu des constructions qui se sont adjointes, et puis il y a les bâtiments qui correspondent à l'outil de travail, et notamment la halle où nous sommes réunis, qui servait de stockage pour les produits finis.
Alors j'ajoute que c'est un lieu absolument magique. Pourriez le décrire parce que c'est vraiment très beau. Est-ce que des gens qui arrivent au Plessis du Rhin peuvent visiter cet endroit?
Non, c'est un site qui n'est pas accessible au public. C'est un domaine totalement privé. Par contre, ils peuvent apercevoir les bâtiments qui se situent dans un écrin de verdure ceinturé par la forêt de Montmirail.
Oui. Alors, cette verrerie, elle a été aussi très connue grâce à un livre. Expliquez-nous.
Alors effectivement, il y a un livre publié par les Amis du Perche sur la verrerie, dont un des personnages mis en avant est Daphné du Maurier, puisque Daphné du Maurier, sa famille descend de Maître Verrier,
oui,
qui ont sévi dans le Perche, notamment. Ils ont été deux passages de mémoire au Plessis, mais par contre, ils se sont stabilisés à l'abbaye du Gué de l'Année.
Eh bien, écoutez, un grand merci. Je sais que vous faites toujours des promenades très agréables, donc nous vous rejoindrons sûrement. Alors, Jean-François Suzanne, je crois que vous voulez absolument nous présenter le livre qui va bientôt sortir. Et, chers amis, vous le retrouverez aussi sur notre antenne dans Tournepage.
Oui, il s'agit en fait du guide des abbayes et prieurés du Perche et de ses confins, publié par les Amis du Perche.
Oui.
Il va sortir à la fin, qu'à mi-novembre, fin novembre de cette année 2016.
Alors expliquez-nous un petit peu en quelques mots, il vous reste une demi-minute.
Alors il s'agit en fait de recenser tous les monastères, les abbayes, les prieurés qui ont pu exister dans le Perche depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, puisqu'il reste encore un monastère en fonctionnement, c'est l'abbaye de la Trappe.
Oui.
Et l'auteur a voulu nous faire un peu découvrir ce patrimoine à la fois historique, ce patrimoine religieux séculier, ou le patrimoine aussi régulier. Et il nous a fait un guide magnifique qu'on va pouvoir vite acquérir dans les kiosques.
Eh bien, je rappelle que cet ouvrage s'appelle « Guide des abbayes et prieurés du Perche et de ses confins », Philippe Boudet, avec de très, très jolies photos de Guilain de Drebrézé, Albert Galissier et Patrice Grébert. Ce livre donc sera publié par les Amis du Perche. Eh bien, un grand merci à vous. Je crois que nos amis auditeurs nous pourront d'ailleurs nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci à vous.
Merci Christiane Blanc.
Merci Christiane Blanc.
Merci Christiane Blanc. Merci Christiane Blanc.